Aujourd'hui, à Rencontre, Francine Couture-Lebel. Francine Couture-Lebel, j'ai lu il y a quelque temps et j'ai relu pour la circonstance votre ouvrage « J'irai boire à la lumière ». Un ouvrage qui est touchant, qui nous touche d'autant plus que vous nous dites comment vous avez été confronté avec le problème qui pour nous est tous essentiel, même si parfois nous voulons l'oublier, le problème de la mort et le problème de la vie. Comment cela s'est-il présenté pour vous dans votre vie, cette rencontre avec ce problème?
Oh. Vous commencez par une question lourde. Commencez tout de suite sur la mort, je vais bien. J'avais 37 ans, comme c'est écrit dans le livre, et bon, comme ça, du jour au lendemain, on vous annonce que vous avez un cancer. Alors, c'est la longue route qui commence, des traitements, chirurgie, etc., etc. Et c'est un peu... c'est brutal. Et à travers tout ça, pour moi, dès le début, je le décris bien d'ailleurs, dès le début, il y a une sorte d'intuition que je dois écrire parce qu'il y a un sens profond aux événements de ma vie tels qu'ils se présentent. Je crois d'ailleurs très profondément à ceci, c'est que vous devez vraiment collé aux événements de votre vie, si vous voulez vivre une foi concrète, je dirais, une foi vécue dans le quotidien. Il faut vraiment partir des faits de votre vie tels qu'ils se présentent.
Vous avez 37 ans, Francine Couture-Lebel.
Oui, au moment où commence le récit.
Et à ce moment-là, quand même, vous avez une certaine expérience de la vie. Et, entre autres, on apprend dans votre ouvrage que vous appartenez à un certain milieu intellectuel. Vous êtes écrivain, vous êtes à ce moment-là, vous êtes en train d'écrire une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Enfin, un texte pour un comédien. Donc, vous appartenez à un certain milieu qui est habitué à réfléchir.
C'est-à-dire, par mes origines, non. J'appartiens à un milieu très modeste, par mes origines même, là. Et je suis, dans ma famille, la seule là, la seule intellectuelle de la famille. Oui, j'écris au moment où tout ça commence. Là. Et bien sûr, l'idée d'écrire n'est pas étrangère au fait que j'écrivais déjà. Mais pour moi, c'était plus fondamental. C'était une question qui m'obsédait d'en trouver le sens à cet événement. Bon, avant que l'événement commence, je suis incroyante, pour dire les choses simplement.
Vous êtes incroyante, mais quand même, vous vivez dans un milieu que je qualifierais un milieu préoccupé de spirituel. Vous êtes, bien que vous n'êtes pas croyante, vous, par exemple, vous êtes curieuse de certains phénomènes, parapsychologie, par exemple, dans votre entourage, on parle de communication avec les morts, etc. Vous êtes une incroyante.
Tout ça vient au moment où commencent les événements, et non pas avant. Et non pas avant. Je crois qu'avant, je suis un être plutôt purement rationnel. Et c'est au moment où les événements commencent que les choses s'enchaînent et que je découvre, petit à petit, un autre monde. Bon, je vais passer par la parapsychologie, par des choses comme ça, que je vais laisser progressivement. Mais, bon, c'est un chemin, c'est un cheminement à travers le livre. C'est un cheminement de foi qui est très lent, qui est très long, qui s'étale sur 3 ans. Ça ne s'est pas fait seul. Ça a été douloureux. Il y a beaucoup aussi d'erreurs que je n'ai pas craint d'écrire telles quelles. Beaucoup d'embardés, comme je dis. Alors voilà, c'est un peu ça, c'est un cheminement spirituel. C'est aussi, je crois, j'ai voulu enfin que ce soit organisé dans un récit qui puisse intéresser le lecteur. Ça a été très important, le travail littéraire qui a été fait là-dessus. Parce que je crois que présenter un cri de souffrance humaine comme ça, sans une écriture qu'il soutienne ou sans une structure qu'il soutienne, ça aurait pas été lisible. Alors, il y a eu tout un travail de littéraire oui, aussi oui. Qui a été fait.
Vous présentez ce récit, le récit de votre cheminement spirituel, un peu sous la forme d'un journal.
Oui, hein? Et je crois que l'écriture est... Enfin, je l'espère. Je l'ai voulu poétique, je l'ai voulu aussi...
Vivante.
Et on me suit à travers le quotidien, à travers... Bon, ce ne sont pas de grandes choses, mais... Je crois que oui, l'écriture a beaucoup de tendresse. Et oui. Pour moi, c'était très important.
Au-delà de la forme, Francine Couture-Lebel, j'aimerais peut-être qu'on aborde certains thèmes que vous développez dans votre ouvrage. Et si vous voulez, on gardera un peu pour la fin le thème majeur de la rencontre avec Dieu. Et d'abord, disons, la rencontre avec le fait que tout à coup, il y a le cancer. Et le mot cancer est un mot épouvantable dans notre société, n'est-ce pas? Comment cela s'est-il produit? Qu'est-ce que ça a été pour vous, tout à coup, de dire, non pas que je suis ceci ou ça, mais j'ai le cancer?
C'est un choc qui est très, très difficile de décrire en mots, là. D'ailleurs, même dans le livre, vous voyez qu'il y a bien des suspensions. C'est très difficile de décrire comme tel le choc. Mais vous entrez dans un autre monde. Vous entrez du jour au lendemain dans le monde des souffrants. Et c'est un monde que je n'ai pas quitté depuis. Mais c'est un monde où j'ai tout appris, ou réappris, si vous voulez. Alors, pour moi, parler de la souffrance humaine, je crois que c'est ce qui me préoccupe le plus, maintenant.
Êtes... Oui. Est-ce que vous avez connu des moments de révolte?
Je dirais, malheureusement, peut-être pas suffisamment. Il y avait une sorte de résignation, là, passive, qui, heureusement, a changé par la suite. Mais je crois que je n'avais pas du tout la bonne conception de la souffrance. J'avais justement, je traînais la conception que l'on m'avait donnée de la souffrance.
Savoir
la résignation passive, par exemple, pour aller rapidement.
Oui.
Mais aujourd'hui, je ne la vois plus du tout. De la même manière, la souffrance humaine.
Comment vous la voyez?
Ah, mon Dieu. Pour faire rapidement, et je suis un peu obligée même de caricaturer, je vous parlerai en termes de germination. Je crois que la souffrance, essentiellement, est une germination.
C'est-à-dire?
Elle est le commencement chez l'homme de ce qu'il a de meilleur. Parce que la souffrance est libératrice de nouvelles énergies, énergie d'amour. Parce que vous devez, à ce moment-là, tourner le regard vers l'essentiel. Vous êtes un peu passif, dans la vie, puisque vos activités sont réduites. Donc, votre vie d'esprit est plus active. N'est-ce pas? Alors, vous allez, oui, plus rapidement vers l'essentiel.
Il y a une espèce de décapage, si on peut dire.
Absolument, absolument. Bon, on pourrait utiliser de vieilles images comme le feu purificateur, vieilles images que tout le monde comprend bien, là. Mais je crois qu'il faut voir la souffrance, mais vraiment essentiellement comme active. La vivre de façon positive. Et je rejoins un peu ce que je disais au début. Épouser les circonstances de sa vie avec une grande fidélité. Et une confiance, un abandon confiant à Dieu. Je crois même que c'est une voie royale vers la sainteté.
Francine Couture-Lebel, vous n'êtes pas seule dans la vie. Vous avez un mari.
Oui.
Vous avez des enfants que vous chérissez, dont vous parlez avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion et de poésie. Qu'est-ce que ça a été... qu'est-ce qui a changé dans votre vie, puisque vous me parlez de changement? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie quant aux relations avec votre mari? Avec vos enfants?
Je crois justement qu'il y a moins de dispersion. Je crois que... C'est une expression que j'aime. Je crois que oui, le regard se tourne vers l'essentiel. Au fond, bon, qu'est-ce que c'est? Nous sommes dans l'existence ici. Nous ne sommes pas dans la vie, nous sommes dans l'existence. Moi, je distingue les deux. Hein, j'existe pour 40 ans, 50 ans, 60 ans, j'en sais rien. Mais je suis dans l'existence. Bon. Il y a autre chose. Je sais bien qu'il y a autre chose qui est plus grand que moi, qui me dépasse, qui m'appelle. Alors, avec les enfants, cet essentiel-là aussi s'installe, si je puis dire. La relation d'amour devient beaucoup plus intense, beaucoup plus... La relation de tendresse aussi devient plus intense parce qu'il y a une finitude, parce que tout est aléatoire, parce qu'on est dans le temporel et que le temporel étant le temporel, il prendra fin.
Mais par ailleurs, vous dites souffrir tout à coup de ne plus pouvoir soulever votre enfant, le prendre, le caresser.
Ah oui, ça c'est très difficile. Ça c'est très difficile, mais ce fut temporaire parce que bon, c'était des questions de circonstances. Physiologiquement, j'ai eu plus de force par la suite. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très très dur parce que être mère sans avoir toutes ses énergies, c'est souffrant. Mm-hmm. Parce que même en ayant toutes ses énergies, c'est très exigeant. Mm-hmm. Alors quand vous les avez pas, c'est souffrant au point de vue physique. Mais par ailleurs, vous pouvez communiquer à d'autres niveaux des énergies amoureuses, des énergies de tendresse. Je dis parfois que d'autres enfants n'auront peut-être pas eu et que les miennes auront eu à cause des circonstances. Mm-hmm. Parce qu'il y a toujours le positif des circonstances.
Votre corps est touché de façon très essentielle, enfin, très dans votre féminité même, n'est-ce pas? Et vous dites, vous ne cachez pas, et je trouve que ce sont d'ailleurs des pages extrêmement émouvantes de votre discours, comment vous avez été obligée de repenser à ce moment-là vos relations avec votre mari.
Ah oui. Ça fait partie de... Ça fait partie de la mastectomie et ça fait partie d'une évolution... de couple. Vous savez que la relation d'un couple, on pourrait reprendre Saint-Paul, une seule chair, c'est une relation extrêmement importante parce qu'il y a un échange continuel, transfert d'énergie, disons, entre l'homme et la femme. Avec un événement comme celui-là, ou bien vous décrochez, ou bien vous allez vous servir de l'événement pour vous rapprocher. C'est-à-dire qu'encore là, vous allez vivre à un niveau plus essentiel, à un niveau plus profond.
Mmh. Et les amis? Il y a beaucoup d'amis dans votre livre, beaucoup de gens qui vous visitent, avec qui vous avez des discussions.
Oui. Ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que je crois beaucoup, personnellement, à la solidarité humaine. Beaucoup.
Et pourtant, vous dites que vous avez eu l'impression de souffrir seul, que la souffrance vous a amené à la solitude.
C'est un fait, et je pense que tous les patients cancéreux vous le diront. Il y a une solitude, parce que la maladie est très longue et beaucoup de gens fuient. J'ai connu le jardin des Oliviers. Pas comme le Seigneur, mais je l'ai beaucoup médité. Oui, on perd beaucoup d'amis, et de très grands amis. Par ailleurs, on en gagne d'autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être qui se transforme spirituellement, il quitte un certain monde, il quitte un certain esprit, une certaine manière de voir les choses. Et de ce fait-là aussi, il perd des amis parce qu'il est un peu méconnaissable. Lui, il est en transformation, il est en gestation, hein, en germination. Alors, certaines gens s'éloignent aussi pour ça, ou simplement parce qu'ils ont peur. Tout ça sont des choses profondément humaines. Je n'en garde aucun regret ou aucune amertume. Mais c'est un fait qu'on vit ces choses-là, oui.
Francine Couture-Lebel, dans votre ouvrage, vous passez beaucoup de temps à l'hôpital.
Oui.
Vous n'avez pas l'air aimer tellement ça, de toute façon.
Non, c'est pas un monde que j'affectionne.
Il y a eu, par exemple, donc toute une évolution de votre conception de la médecine, des soins et de la prise en charge de votre corps.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Oh oui, ça c'est très très important. Vous savez, la médecine telle qu'elle est pratiquée maintenant. Oh mon Dieu, je pourrais vous dire tant de choses sur ça. C'est une médecine qui est de technique, essentiellement. Entre vous et le médecin, ou entre vous et la technicienne, il y a toujours une machine. Un monstre de métal qui est là, froid. Le monde des hôpitaux est le monde de la douleur. Alors, c'est un monde très dur. Il y a, à l'intérieur des hôpitaux, des gens remarquables. Il y a des personnes de cœur extraordinaires. Par exemple, mon médecin, dont je parle souvent. Ouais. Mais toutes ces bonnes énergies d'amour, là, on a l'impression qu'elles sont atomisées.
Ou masquées par des appareils.
Ou masquées par des appareils.
Et des techniques.
Il y a vraiment un aspect humain, là. Et je crois qu'il manque aussi à la formation des médecins eux-mêmes. Je crois qu'il y a peu de médecins. Il y en a, mais je crois qu'il y en a encore beaucoup, qui n'ont pas réfléchi sur le sens de la relation humaine. Or, quand vous êtes en situation de maladie, c'est la chose la plus fondamentale pour vous, la relation humaine. Qu'est-ce que c'est une relation humaine? C'est essentiellement, et c'est très important, c'est un échange constant, comme nous le faisons maintenant, de ce que nous avons de meilleur, comme de ce que nous avons de pire, c'est-à-dire que nous échangeons nos courants de vie profonds, n'est-ce pas, continuellement. C'est ce qui fait le sens de la solidarité humaine, c'est ce qui fait, par exemple, la merveilleuse notion de corps mystique du Christ. Nous sommes infiniment solidaires. Alors, imaginez le malade dans un hôpital, le besoin de solidarité qu'il a à ce moment-là. Mais il ne l'a pas nécessairement humainement, parce que c'est un monde de douleur qui est devenu, oui, j'ose le dire, inhumain, dans beaucoup de cas. Je ne pointe pas des individus disant ça, je ne fais pas d'accusation.
Vous faites une analyse générale.
Général, oui, que... Il faut être en très bonne santé pour fréquenter les hôpitaux.
Vous avez de l'humour.
J'aime beaucoup l'humour. J'en parle souvent, d'ailleurs, dans le livre.
Mais c'est pas tout d'en parler. Il faut le vivre comme vous le faites.
Oui, c'est très important, parce que vous savez que c'est une réalité physiologique importante, le rire. Ça détend tout l'organisme. Il y a une boutade dans le livre, j'imagine, vous l'avez peut-être relevé. Je dis, ne prenez pas la vie si au sérieux. Finalement, personne n'en sortira vivant. Et il y a une autre chose qui est très belle. Vous savez que pour faire la tête, il faut 36 muscles en action. Et pour sourire, il en faut seulement 13. Alors, on est bien bête de faire la dépense additionnelle d'énergie pour embêter les autres de surcroît. Ça, c'est mon humour. Non, c'est très important, l'humour avec le malade. Mais évidemment, vous ne trouverez pas... souvent des situations d'humour dans les hôpitaux. Et je crois aussi qu'il faut penser...
Donc c'est une attitude que vous avez développée.
Oui.
Qui avait déjà des antécédents ou bien qui sait...
Je suis une femme d'humour, je crois, mais je l'ai aussi développée. Je me suis rendu compte, justement, dans ce transfert de relations, dans ce transfert d'énergie dont je vous parlais, c'est que si moi, je souriais ou si j'avais l'air assez bien ou maquillée ou... L'autre me renvoyait la même image. Souvent, souvent, des gens que je n'avais pas vus depuis 2-3 ans me disaient, ils apprenaient que j'étais malade. Tout à coup, ils ne l'avaient jamais su. Malade? Mais c'est impossible. Elle n'a jamais eu l'air malade. C'était une stratégie, comme je disais dans le livre. Mm-hmm. Et je pense que c'est très important que le malade joue cette stratégie.
Et à ce moment-là, donc, vous avez l'impression de solliciter un peu l'énergie des autres.
Oui.
En même temps que vous leur... Dans votre ouvrage, j'ai retrouvé à 5 endroits un passage où finalement vous dites donc que la vie a un sens. Et c'est ce qu'on disait au début, n'est-ce pas? Et pour vous, donc, il y a cette découverte à travers la maladie, à travers cette expérience des relations avec les autres qui se transforment, de la douleur, de la prise en charge de votre corps jusque dans cette musculature du sourire. Et donc, cette chose, il y a cette expérience de la découverte d'un sens, de la vie, d'un sens qui débouche sur Dieu. Mais ça ne se fait pas tout à coup. Vous me dites, à un moment donné, dans l'ouvrage, vous dites, je me suis mis à prier, ça faisait 21 ans que ça m'était arrivé.
C'est ça. Oui, oui, il y a une période de 25 ans où je suis à peu près absente aux réalités spirituelles. À peu près absente. Non pas que je n'ai plus la foi, parce qu'on a reçu la foi au baptême, mais par conséquent, on ne peut pas s'enlever ce don qui nous a été fait. Mais c'est certain que je ne l'ai pas cultivé. Hein? Alors, quand je me retrouve en situation de maladie, la foi n'a pas beaucoup de vigueur. Et je devrais, malheureusement pour moi, faire mon cheminement en situation de souffrance, ce que les gens devraient faire en situation de santé.
C'est un bon message.
J'ai dû le faire en situation de souffrance, donc c'est plus difficile. Parce que à ce moment-là, vous savez bien, croire à Dieu quand tout va bien, c'est relativement facile.
Peut-être que c'est plus facile.
Et même là.
Oui, et peut-être que c'est plus facile quand, justement, on est en situation de souffrance, parce qu'on vous dira, à ce moment-là, Dieu devient une béquille.
Oh non. Dieu béquille, là, non. Dieu force, Dieu vie, Dieu béquille, non. J'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais vous dire.
Donc, vous disiez que vous avez rencontré Dieu après avoir... vous avez reçu la foi au baptême, mais que pendant 20-quelques années, donc, les choses sont en veilleuse et que vous avez redécouvert Dieu dans le cours de la souffrance et que c'est peut-être... Il serait peut-être préférable de le retrouver dans le cours de la... en état de santé.
En état en santé. Qu'est-ce que c'est la foi? Bon, on pourrait peut-être poser cette question... Là aussi, crûment que ça. Qu'est-ce que c'est la foi pour moi? Je crois que c'est une... Là aussi, je vais définir très simplement. Je crois que c'est une force vitale. N'oubliez pas, le royaume de Dieu est en vous. Mon Père et moi ferons notre demeure en vous. Par conséquent, vous devez avoir en vous une force. Et c'est ça, la foi. C'est retrouver cette force vitale qui fait que votre esprit est uni à l'esprit et que vous, vous êtes temple de Dieu. Et qu'en situation de souffrance, mais Dieu est présent, omniprésent. Ça me rappelle une belle histoire d'un dialogue d'une personne qui souffre beaucoup et qui dit à l'autre, « Quand j'ai traversé le désert, il me semblait que j'étais seul, Dieu était absent. » Je ne sentais pas qu'il était là. Et quand je me retournais, je voyais juste une trace de pas. Et l'autre lui a répondu, « Ah, la trace de pas que tu voyais, ce n'était pas les tiens, c'est lui qui te portait. »
Vous avez eu l'impression, le sentiment d'être porté par Dieu.
Absolument.
Vous n'avez pas été en lutte avec lui.
À certains moments, oui, sinon je ne serais pas humaine, hein. Je crois qu'à certains moments, dans une traversée de désert comme celle-là, il y a des cris, il y a des hurlements, il y a des noms. Mais il y a eu des oui. Il y a eu de grands oui.
Moi, je trouve ça quand même, écoutez, étonnant. Je ne dis pas que je refuse, mais voilà une femme qui... Vous avez vécu à Paris, vous appartenez donc, peut-être pas par vos origines, mais par le travail que vous faites à un milieu intellectuel, etc. Et puis tout à coup, je vous entends tenir un discours extrêmement religieux, citation d'évangile, etc. Je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que cela veut dire?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Comment ça s'est redécouvert? Comment vous êtes réapproprié tout cela?
Je crois que simplement, je suis redevenue fidèle à mon propre héritage. J'ai laissé remonter ce qui était là, d'une part. Parce que l'Évangile, ce n'est pas absent de ma vie, moi. Ça fait partie de toute mon enfance, de toute ma lignée de vie. Alors, quand je dis bien, je redécouvre l'Évangile, je ne découvre pas. Elle était déjà inscrite dans mon enfance, dans toute mon éducation. Si moi, j'avais fait silence pendant 20 ans, il reste que le baptême, l'effet du baptême. Et tout ce que j'ai reçu jusqu'à 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, ça demeure. Et je renoue donc avec mes propres origines à ce moment-là, mes origines de foi.
Est-ce que vous êtes là pour me suggérer 1000 questions, mais je n'ai pas le temps. Qui est Dieu pour vous?
Oh mon Dieu.
Vous dites souvent ça, oh mon Dieu, dans votre livre.
Ce c'est le sans nom, c'est le tout, c'est aussi le mystère. Je crois que je ne peux pas vous définir qui est Dieu. C'est une pulsion intérieure qui vous mène vers. Mais qui est-il, lui, Dieu? Bon, d'ailleurs, c'est un des problèmes du livre. Vous voyez, pendant un an ou deux, je cherche Dieu. Dieu étant mystère, je m'incline, finalement, devant le mystère. Mais entre-temps, je croise le Christ. Ah!
C'est lui qui vous amène à Dieu.
Ah, mais oui. Ah, mais oui.
C'est la découverte de l'Évangile, de sa parole.
C'est le Christ et l'Évangile, essentiellement, qui vont ramener mon chemin de foi vers Dieu. Parce que je crois que j'allais un peu...
À tâtons.
Oui, beaucoup à tâtons. Et j'ai fait
et
beaucoup
d'erreurs.
Oui, ah oui, absolument. Mais dès l'instant, ça se passe en 84, où je redécouvre le Christ, où je redécouvre l'Évangile, où je renoue, encore une fois, avec mes origines, parce que c'est très important, vous ne pouvez pas vivre hors origine. Ce qui fait, par exemple, problème pour les nombreuses spiritualités que vous voyez maintenant, ça devient... Il y a beaucoup, beaucoup d'importations, de concepts qui ne font pas du tout partie de notre métaphysique à nous. On n'est pas tissé de ça. Même si on me parle de Bouddha ou de Krishna, moi, je n'ai rien de ça dans ma lignée de vie. Ma vie n'a rien enregistré de ça, moi. Alors, j'importe, ça me donne quoi? Je ne peux pas vivre hors ma lignée de vie. Et elle est chrétienne.
Elle est chrétienne. Alors, vous assumez donc toute cette histoire et tout ce bagage?
Je l'assume, mais tout en... Il faut bien comprendre que j'ai aussi un esprit critique, ouais. Face à l'enseignement que j'ai reçu de l'Église. Je crois que j'ai un esprit critique, mais j'ai aussi un esprit éminemment positif face à l'Église.
Oui. Pour terminer en 15 secondes, quelle est votre joie, Francine Couture-Rubel?
Ma joie?
Oui.
Ma joie, c'est de voir la solidarité qui existe entre tous les êtres, de savoir que ce soir on parle et que peut-être quelqu'un, par une parole, une seule, redécouvrira l'essentiel de sa vie. Ça, c'est une joie extraordinaire.
Francine Couture-Rubel, merci.
C'est moi qui vous remercie.